Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM pour cette émission enregistrée à l'Attisoire à Mende dans le cadre de l'opération Elles savent s'y prendre. 9 participantes sont à côté en train d'ailleurs de travailler sur la création d'une lampe. Il y aura peut-être un peu de bruit, vous l'entendrez au cours de cette émission. Alors parce qu'on va parler d'artisanat, longtemps précaré masculin, le monde de l'artisanat commence à accueillir davantage de consoeurs. Alors les chiffres diffèrent selon les sources, mais entre 500 000 et 800 000 personnes, soit plus de 30% des salariés de l'artisanat sont des femmes. Une entreprise sur quatre est dirigée par une femme, cette part ayant doublé en l'espace de 30 ans. Alors si ces chiffres ne sont pas encore paritaires, l'évolution est plutôt encourageante, même si parfois le diable se cache dans les détails, et c'est ce que nous allons chasser aujourd'hui. Avec nous, pour apporter tout son savoir sur ces questions, Charlotte Simon, la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, auprès de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations. Bonjour Charlotte.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous et à toutes.
Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir à ce micro. La DDTSPP, partenaire de cette opération, Elles savent s'y prendre, portée par l'atelier des bricoleurs du tiers-lieu toulousain Les Imbriqués. Avec François qui est là, bonjour.
Bonjour.
Alors François, l'atelier des bricoleurs qui propose aux curieux, aux passionnés et aux professionnels des espaces partagés dédiés à la fabrication et au faire soi-même, c'est ça ?
C'est ça, voilà, il y a à la fois des espaces partagés pour venir en libre service, réaliser des projets, fabriquer des meubles, restaurer des meubles. C'est un espace aussi d'apprentissage où on peut faire des ateliers de fabrication d'objets qui ressemblent à la lampe aujourd'hui par exemple qui est fabriquée, des initiations sur les outils, les techniques. Pour découvrir les outils et les machines de la menuiserie, de la métallerie et d'autres savoir-faire manuels.
Alors on reste dans cette idée de mutualisation avec de projets collectifs à construire ensemble. Avec l'Attisoire, nous sommes ici, une manufacture de proximité portée par une association. Kevin Janvier, responsable de l'atelier, est là. Bonjour Kevin.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Eh bien merci de nous recevoir dans cet espace qui fait combien de mètres carrés environ ?
On est à 400 mètres carrés répartis sur deux zones. Il y a la zone où on bricole en ce moment là, qui est la zone établie, qui fait à peu près 200 mètres carrés, et on a de l'autre côté de la cloison 200 mètres carrés aussi pour les résidents machines, là, qui auront accès à des machines de menuisier professionnels.
Alors, c'est le premier événement que vous organisez ici,
c'est le tout premier, ouais, après la conférence de presse.
Voilà. Bon, ben, on est là pour inaugurer cet espace. Alors, nous, on a, sur 48FM, évoqué l'Attisoire plusieurs fois, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, concrètement, c'est quoi l'Attisoire? Rappelez-nous un peu le genèse de ce projet.
La genèse de ce projet, bon, elle est large. Ça touche plusieurs besoins en fait locaux qui sont sur la filière bois, d'implanter une manufacture de proximité pour aider au développement de la filière bois en Lozère et de pouvoir créer une certification bois de Lozère idéalement. On travaille sur ça. On travaille aussi sur le développement des capacités des artisans à se développer ou à créer des entreprises grâce à tout ce qui est mis à disposition ici à des tarifs préférentiels. On a aussi toute une partie développement avec des postes CAO pour faire du prototypage, pour aider à développer des gammes. Comme ici, on a actuellement une artisane cuir qui souhaite développer sa gamme. Donc on va l'accompagner en parallèle du travail du bois et d'autres projets comme ça à venir.
Voilà, et elle viendra témoigner tout à l'heure. Qu'est-ce qui est mis à disposition comme machine? On va peut-être pas toutes les citer, mais concrètement, c'est quoi?
Tout l'électroportatif de base qu'on peut trouver dans un atelier en qualité pro. Et des machines d'atelier plus spécifiques pour le bois, toupie, des boragos, scie à format, scie à ruban, etc.
Du coup, comment ça se passe? Vous allez rechercher des personnes pour venir prendre possession de ce lieu, et quel type de personnes?
Des personnes qui ont envie d'entreprendre et d'augmenter leur capacité de production, de développer, prototyper, comme je disais. Peut-être aussi de sortir un petit peu des sentiers battus, hein, en rentrant dans une atmosphère plus plus atypique, par le collaboratif, j'entends. Peut-être de mutualiser certaines opérations au sein de l'atelier entre les différents acteurs.
Alors comment ça va se passer? C'est quoi? C'est une adhésion à l'année? C'est tout le monde peut rentrer ou il va y avoir certains types de personnes ou d'autres, des tests? Comment ça marche?
On a un profil souhaité qui est déjà des entreprises. Nous on cherche des gens qui sont professionnels, qui sont déjà déclarés, installés ou en train de s'installer. On a le cas avec l'un des futurs adhérents d'ailleurs, qui va créer son entreprise en septembre et qui va du coup profiter des locaux pour exercer.
Et du coup, on n'a pas peur que ça soit trop petit, qu'au final, on soit victime de son succès, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent ici, ou au contraire, on cherche à amener des personnes?
Non, c'est ouvert, l'ouverture est bel et bien présente, suffisamment large pour étudier toutes les propositions. Et puis, en fonction de la vie du lieu, il y a des choses qui sont recevables à certains moments et à d'autres pas forcément. Donc,
l'adaptabilité. On cherche des personnes qui viennent sur le long terme ou voilà.
Oui, à l'année.
C'est mieux à l'année.
C'est bien. Pour commencer, ça nous permet à tous de construire quelque chose, voilà, un peu durable pour se lancer et s'organiser convenablement.
Pour terminer, on imagine poursuivre des opérations comme celle-ci, faire des événements ponctuels pour mettre en lumière certaines causes?
Oui, on est aussi lieu d'accueil, il y a un rôle social à la Tisoire. Donc là on est en plein dedans avec Elles savent s'y prendre, avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est une belle émulation, donc ça fait vivre le lieu, on est friands de ça.
Ben merci beaucoup Kevin, Elles savent s'y prendre, on en parle. On va laisser place à Sylvie Fauché, maître chocolatière, qui représente aujourd'hui la chambre de métier de l'artisanat, qui vous remplace. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous.
Bonjour tout le monde.
Alors Kevin vient de le dire, une opération ici à la Tisoire, Elles savent s'y prendre. On est là pour évoquer cette opération et également par le biais de cette opération la place des femmes dans ce milieu de l'artisanat qui reste encore très masculin. Vous organisez donc souvent des journées comme celle-ci de découverte de l'artisanat et qui plus est vers un public féminin.
Alors on organise beaucoup d'activités de bricolage et de découverte du coup des techniques et des outils auprès de toutes sortes de publics, auprès des adultes, femmes comme hommes, auprès aussi des enfants. L'atelier des bricoleurs, l'idée c'est de pouvoir accueillir tout le monde. Et on est ravis d'être là aujourd'hui justement sur la question des femmes et de l'artisanat. Ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que le tiers-lieu Les Imbriqués accueille aussi des artisans, des artisanes qui louent des espaces et qui pratiquent leur activité. Et aujourd'hui, on a 15 artisans, artisanes qui sont présentes, dont 11 qui sont des femmes et 4 qui sont des hommes. Donc on a une très belle représentation de l'artisanat par les femmes dans le tiers-lieu Les Imbriqués.
D'accord, mais si vous n'êtes pas du tout dans les moyennes nationales, c'est le contraire. Comment on explique ça?
Je ne sais pas comment on l'explique. En tout cas, nous,
il n'y a peut-être pas d'explication d'ailleurs.
Pas d'explication, parce qu'en fait, le lieu s'est créé sans réserver particulièrement des places à tel ou tel type d'activité. Donc, c'est assez varié. On a parmi les femmes qui sont dans notre tiers lieu une créatrice de luminaire, une papetière, une céramiste, une photographe, une sérigraphe. On a deux ébénistes, une restauratrice de meubles, une créatrice de bijoux, une coutelière et une couturière tapissière. Voilà.
D'accord. Peut-être aussi, vous voyez, des métiers qui sont plus féminins. On le verra après au niveau de l'apprentissage du CFA. C'est encore malheureusement très genré. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver lors de cette journée ici à Mende, à la Tisoire?
Alors aujourd'hui, le cœur de la journée, c'est un atelier de fabrication d'une lampe scandinave. Donc c'est une activité à la fois autour de la menuiserie et de l'électricité. On va fabriquer la lampe entièrement. Il nous manque juste de fabriquer l'abat-jour pour vraiment aller au bout de la lampe elle-même. Donc là, il y a le pied de la lampe qui est en bois massif et voilà, qui est découpé, qui est assemblé, et toute la partie électrique, l'interrupteur, la prise, la douille. Voilà, qui sera terminé cet après-midi.
D'accord. Après, vous allez faire la même opération dans d'autres départements?
On va se déplacer dans d'autres départements. On va avoir l'occasion début juin de le faire dans l'Aveyron, Et alors je ne sais plus la date pour le, mais ça va avoir lieu aussi dans les Hautes-Pyrénées.
D'accord. Vous parliez plusieurs corps de métier pour faire une lampe, électricité, bois, voilà. À l'atelier des bricoleurs, c'est ce que vous avez. Vous avez plusieurs activités, menuiserie, métallerie. Vous avez quoi encore?
Oui. Alors historiquement, on était autour du travail du bois et du métal depuis 2014. Et depuis fin 2021, début 2022, on s'est ouvert vers d'autres savoir-faire manuels. Donc dans la partie atelier partagé de l'atelier des bricoleurs, maintenant on offre des espaces en libre-service pour venir faire le travail du cuir, la couture, de la sérigraphie, de la céramique, de la mosaïque, du vitrail. Voilà, on essaie de proposer une grande palette d'activités qui peuvent se marier éventuellement, parce qu'on peut concevoir assez facilement des objets qui soient en bois et en cuir, qui soient en bois et en métal, en bois et en tissu, voilà, pour en ne pensant qu'aux meubles par exemple.
Qui vient chez vous? On a vu ici à la Tisoire, on recherche plutôt des professionnels. Vous, c'est des professionnels, c'est des bricoleurs du dimanche, c'est qui?
Nous, au départ, ce sont des particuliers qui viennent en libre service. Tout en ayant une palette très large, parce qu'on a des particuliers vraiment bricoleurs du dimanche qui ont besoin de faire une petite réparation chez eux. On a des gens qui sont curieux de découvrir la menuiserie, qui parfois ont eu l'occasion de voir ça à distance et qui veulent mettre la main dans la menuiserie. On a des personnes qui deviennent vraiment des hobbyistes, qui veulent pratiquer la menuiserie sur une base vraiment régulière. On a des personnes qui veulent se reconvertir, donc déjà qui veulent tester leur goût pour le matériau, bois, métal ou autre. Ou qui préparent vraiment une reconversion, donc qui attendent de pouvoir entrer dans une école, qui préparent un CAP en candidat libre. Et on a aussi des professionnels qui sont moins nombreux, mais qui sont présents aussi, qui ont besoin ponctuellement de l'espace que l'on propose et qui ont besoin ponctuellement de tel ou tel outil ou machine qu'ils n'auraient pas à disposition, ou pour simplement remplacer une panne momentanée.
Alors vous l'avez dit, 11 femmes sur 15 qui encadrent ces ateliers. Au niveau du public qui vient, c'est comment? Il y a plus d'hommes que de femmes? C'est pareil, c'est paritaire?
Oui, alors les 15 artisans dont je parlais, ce sont des artisans qui, eux, pratiquent leur activité. Et l'équipe qui encadre les ateliers partagés, c'est une équipe de 4. C'est une équipe avec donc une femme et 3 hommes. Et donc plus un gérant. En fait, on est 5 à pouvoir intervenir sur la partie encadrement technique.
D'accord.
Et alors en termes de public, je dirais qu'on est entre 35 et 45% de femmes qui viennent utiliser les ateliers partagés.
Ok, presque à la moitié.
On n'y est pas encore, mais voilà, en tout cas c'est assez ouvert. L'idée du lieu, c'est que c'est un lieu de partage, donc c'est un lieu où on se retrouve pas seul devant les outils. On ne se retrouve pas seul non plus à pratiquer la menuiserie, la métallerie. Donc le cadre qui permet l'échange, qui permet la transmission de pair à pair, qui permet la transmission entre les encadrants, les encadrantes et les personnes qui viennent, est très favorable finalement à la découverte et puis à l'approfondissement de ces activités-là.
Le monde de l'artisanat avec les femmes, pour vous, c'est des a priori, ça a évolué tout ça, ou ça, on en parlait un peu en off avant cette émission ensemble?
Alors, j'ai l'impression qu'il doit rester des croyances comme quoi certaines activités sont réservées aux hommes. Et j'ai l'impression en même temps que les mentalités ont vraiment évolué. En tout cas, dans le cadre de l'atelier, il n'y a aucun moment où on a eu l'occasion de percevoir une quelconque forme de discrimination ou même un étonnement qui ne serait pas verbalisé sur le fait qu'une femme puisse pratiquer tel ou tel type d'activité. On a par exemple de nombreuses femmes qui viennent s'initier à la soudure à l'arc. Pour le métal, alors voilà, c'est du métal, c'est lourd, c'est salissant. Et voilà, il y a des femmes comme des hommes qui viennent le faire et on en est bien content.
Et merci beaucoup François, on va aller voir un peu dans les chiffres nationaux ce que ça donne. On va laisser place à la testeuse de cet attisoir qui est là avec nous, Céline Miquelard, qui nous rejoint, qui va prendre votre place. Comme ça, on va vous laisser repartir à vos ateliers pour aider les participantes à bricoler cette lampe. Bonjour, merci de nous rejoindre.
Bonjour à tous.
Alors, on va repartir dans les chiffres avec Charlotte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes représentent désormais 23% des chefs d'entreprise. Et surtout, leur présence contribue à augmenter. Donc ça, c'est intéressant. Le nombre des diplômés parmi les dirigeants. Alors, 51% des chefs d'entreprise ont au moins un niveau baccalauréat contre 33% chez les hommes. Donc en gros, pour résumer, moins nombreuses mais mieux diplômées. Charlotte Simon, les créatrices d'entreprise affirment rencontrer des freins spécifiques au fait qu'elles soient des femmes.
Oui, effectivement, il y a des freins spécifiques qui sont rencontrés par les femmes. Donc ça, c'est des chiffres issus des chiffres clés qui sont sortis en 2022 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et pour pas non plus vous assommer de chiffres, en parallèle, je vais vous parler aussi d'un retour que j'ai eu sur un événement où j'étais dans l'Hérault, qui était sur réussir au féminin dans l'artisanat en Occitanie. C'est une action qui a été lancée là en avril. Et un peu des interventions des jeunes femmes qui venaient à cette première réunion d'information. Donc le frein vraiment majeur, c'est l'accès au financement. En fait, hein, 51% des femmes rencontrent des difficultés dans les accès au financement. Et je l'ai bien vu lors de cette réunion, puisque là, c'est même une professionnelle de la CMA qui participe à des comités financeurs, qui a déjà entendu, mais si on lui accorde le financement, qui va s'occuper des enfants ? Voilà, donc ce qui est quand même assez consternant. Le deuxième frein majeur, c'est au niveau de l'articulation des temps de vie. Et c'est aussi ce qui est ressorti lors de cette information collective, c'était que c'est super d'être artisane parce que ça permet de faire ses propres horaires, travailler, d'être sa propre patronne, notamment par rapport aux enfants. Mais en fait, ça demande quand même une charge mentale assez conséquente. Hein, donc, et ça peut conduire à l'abandon du projet, voire pire à un épuisement professionnel. Alors il y a un autre frein spécifique qui est de 25% aussi. C'est le syndrome de l'imposteur en fait. Hein, c'est le manque de confiance en soi. Ça c'est une difficulté qui est clairement soulevée. Même ce matin, voilà, j'ai parlé avec les participantes et c'est aussi exactement la même chose qu'elles m'ont dit. Et puis quand même, moi j'étais assez étonnée sur ce dernier chiffre. C'est le manque de soutien de l'entourage. En fait, 21% des chefs d'entreprise ont un manque de soutien de leur entourage, notamment une minimisation en fait de l'investissement nécessaire. Par exemple, si c'est une activité à domicile, on dit mais c'est bon, tu travailles de chez toi. Tu peux effectivement t'occuper de tes enfants, il n'y a pas de souci. Voilà, tu peux aussi tout gérer. Et on a aussi les remarques sexistes. 21% des femmes également rencontrent des remarques sexistes. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure l'atelier des bricoleurs, alors c'était dans l'Hérault, mais il y a une femme qui a fait remonter qu'elle est allée à un atelier partagé, en fait un tiers-lieu de la sorte, et qu'en fait elle a été très mal accueillie, que ce soit par les personnes propriétaires, enfin qui animaient le lieu, que par les autres bricoleurs, on va dire, et qu'en fait elle n'a plus du tout voulu retourner au lieu parce qu'elle s'est sentie en fait qu'il y avait des moqueries. Et donc ces moqueries, ça peut être de l'entourage, des partenaires commerciaux, mais aussi même des clients parfois dans une plus moindre mesure.
Alors, le syndrome de l'imposteur, on le retrouve dans différents domaines, différents cadres de vie. L'accès au financement, 51%, c'est énorme. On sait que c'est un frein primordial, l'accès au financement. Céline, vous avez été confrontée à ça. On sait que vous êtes maroquinière, on dit, du coup, quand on travaille de cuir.
Moi, je travaille la sculpture sur cuir.
D'accord, donc c'est pas pareil, voilà, c'est pour
c'est
ça.
C'est une spécialisation de la maroquinerie. Où on travaille sur un cuir particulier qui s'appelle le cuir en tannage végétal, où le principe est de mettre en forme le cuir et surtout de créer des dessins en relief sur le cuir.
L'accès au financement, vous y êtes penché, je ne sais pas où vous en êtes de votre création d'entreprise, je sais que vous cherchez peut-être un lieu. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes au niveau de cet accès ?
Alors, moi personnellement, non.
D'accord.
Parce que j'ai... Bon, déjà, moi, j'ai des fonds propres qui me permettent d'investir un peu et j'ai quand même un investissement. C'est un domaine d'activité où les investissements sont quand même raisonnables. On n'a pas forcément besoin de machines très, très coûteuses. On a besoin de beaucoup de petits matériels, mais finalement, qui restent avec un coût raisonnable au total. C'est plus une problématique de lieu, effectivement, après. Par contre, j'ai des amis qui ont été, effectivement, même des investisseuses au niveau immobilier, qui se sont vues refuser un prêt immobilier parce qu'elles étaient des femmes.
D'accord. Même question, Sylvie. Vous êtes implantée maintenant, ça y est, quand vous avez voulu démarrer votre activité, vous avez rencontré des problèmes ou pas ?
C'est des souvenirs qui sont lointains pour moi maintenant, puisque ça fait 11 ans que je suis installée. Mais effectivement, ça a été le parcours du combattant quand ça a été le moment d'aller voir les banques. Bon, j'ai eu aussi un petit peu de chance, j'avais également des fonds propres. Et effectivement, ça aide beaucoup. Hein. J'avais déjà travaillé une vingtaine d'années assez intensément en vue de pouvoir m'installer également. Donc voilà. Mais c'est un parcours du combattant. Hein. Vous ravivez des souvenirs assez particuliers.
Vous êtes là, vous représentez la chambre de métier et votre témoignage en tant que maître chocolatier va être intéressant. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours, soit d'études ou soit professionnel, juste parce que vous étiez une femme ?
Faut dire la vérité ? Mais évidemment, évidemment, bien sûr, c'est le pas. Encore une fois, c'est combattant, c'est un mot qui est très fort, hein. Mais en fait, c'est ça, hein, tout simplement, hein. Dès le départ, j'ai toujours travaillé avec des hommes. Ce qu'il faut faire, c'est aller de l'avant et rester positif, ce qui est pas toujours évident, parce que quand vous avez, par exemple, votre chef en chocolaterie qui vient vous dire tu iras aider tes copines qui sont chocolatières professionnelles. Et vous, que vous êtes, vous remplacez un pâtissier dans un autre rayon et qui vient vous voir et qui vient vous dire tu iras aider tes copines à faire le ménage. D'accord, ok, mais c'est très bien. Donc oui, oui, effectivement, c'est et ça, c'est pas, c'est une petite rigolade maintenant. Mais bon, voilà, ça vous fait drôle. Hein.
Même question dans votre parcours, Céline.
Un petit peu. Après, je pense qu'il y a aussi une histoire de tempérament, une histoire de volonté. Et
on peut avoir la volonté, se faire brimer quand même.
Alors moi, disons que j'ai un tempérament. Si on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Donc je pense qu'il y a effectivement, on a tout eu des brimades, il y a tout eu des mesures de harcèlement aussi, on n'en a pas parlé, mais des remarques déplacées, des comportements déplacés. Après, c'est une question, je pense, à mon sens, aussi de réaction. De réaction, de limite à savoir poser et savoir être très autonome et se passer de l'aide des hommes. Moi, j'ai toujours été, voilà, à diriger un petit peu mon avenir. Et donc, face à ces problèmes, j'ai décidé que pour moi, ça n'en était pas un et que j'avais les moyens autant qu'un homme. Et donc, moi, j'en étais persuadée la première. J'avais pas besoin de convaincre quelqu'un d'autre. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, alors du coup, pas trop en équipe. Parce qu'on avait du mal à me confier des responsabilités, parce que à diplôme équivalent, on va avoir un poste inférieur. Et ben moi, si on me donne pas le poste auquel je postule, et ben je crée mon poste, tout simplement. Mais ça demande effectivement d'avoir déjà. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient, contrairement aux autres témoignages. Donc la répartition de la charge de la maison, du travail. Mon mari est indépendant également, donc en fait on. Il est bien placé pour comprendre ce que c'est que d'être un investisseur, d'être un entrepreneur et de créer sa réalité et son quotidien. Donc voilà, choisir déjà le bon partenaire et savoir se tourner plutôt sur les amis qui vous soutiennent plutôt que sur ceux qui vous coulent. Et ne pas se laisser arrêter et avoir plus de volonté que ça, mais ça demande effectivement beaucoup de persévérance, beaucoup de courage et avec pas mal de moments de découragement. Mais je pense qu'ils sont rencontrés aussi par certains hommes. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout mystifier et tout noircir. On a des problèmes spécifiques aux femmes, les hommes ont des problèmes spécifiques aux hommes. Et l'entrepreneuriat est de toute manière une aventure qui demande la détermination.
Oui, ben je pensais par exemple même au-delà du tempérament. Ce matin, on avait deux jeunes femmes de mission locale. Je ne sais pas si vous les avez vues, Céline, si elles étaient déjà parties quand vous êtes arrivées. Et c'est vrai que, bah, en fait, ça peut être difficile de réagir face à un chef qui vous fait une réflexion comme ça a été le cas pour vous, Sylvie. Enfin, voilà, c'était des jeunes femmes mineures qui savent pas trop vers où s'orienter. Il y en a une qui veut partir en formation de joaillerie. Je suis pas sûre qu'elle arrive à réagir entre guillemets, à poser des limites. Et puis le comportement. En fait, finalement, est problématique. C'est assez systémique, en fait. C'est là la difficulté. Il faut essayer de pas culpabiliser les victimes potentielles, mais plutôt de qu'il y ait une prise de conscience, en fait, qu'il y a quand même un problème systémique, d'égalité entre les femmes et les hommes.
Sylvie, vous avez eu du tempérament, vous avez un parcours extraordinaire. Rappelez-nous un peu votre parcours pour devenir maître chocolatière aujourd'hui.
Au départ, c'était pas du tout maître chocolatière. J'ai fait des études hôtellerie-restauration au lycée Sacré-Cœur à Saint-Chély. Après, je suis allée à Ferrandi à Paris. C'est une grande école où j'ai vraiment eu la chance de pouvoir y rentrer. Et voilà, ensuite, j'ai fait un petit parcours hôtelier-restaurant dans des grands restaurants en France. Et puis, justement dans une des brigades d'un grand restaurant dans lequel je travaillais. C'était vraiment très dur mentalement et physiquement. Bon, j'ai voulu faire une pause. J'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez un chocolatier qui était en Lozère. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a plu énormément. Parce que le chocolat, on le touche pas comme ça en fait. Une boulangerie, pâtisserie, restaurant, le chocolat c'est secret, on le partage pas, on le voit de loin. Et ben là, j'avais la possibilité de le voir de près et de pouvoir le découvrir. Donc du coup, je suis restée dans le chocolat depuis bientôt 25 ans. Donc voilà, j'ai fait une dizaine d'années chez un grand chocolatier sur Lyon et puis. Une lassitude s'est aussi installée parce qu'on me donnait pas forcément de responsabilité. Je me retrouve dans vos paroles parce que moi aussi je créais un peu mon poste. J'avais une très bonne entente avec mes patrons et puis chaque fois qu'il y avait un investissement personnel supplémentaire à faire, c'était avec plaisir que je le faisais. Un peu plus de travail, je le faisais parce que ça me permettait de découvrir et de partager et de connaître d'autres personnes. Et voilà, et tout ça, ça m'a permis de dire à un moment donné dans ma vie, j'ai envie de voler de mes propres ailes et j'ai choisi, mais avec aucun regret, de revenir en Lozère parce que bon, je suis à la base, je suis lozérienne, née à Langogne, fièrement.
Voilà, on revient dans cette idée de devenir chef d'entreprise finalement pour être maître de son destin. Par rapport aux données que nous a fournies Charlotte, est-ce que c'est compliqué d'être une chef d'entreprise ou finalement c'est plus simple? On n'a pas à dépendre de patrons qui...
On dépend d'autre chose, j'ai envie de dire après. Hein. On dépend des organismes, de la banque déjà, puisqu'on est en location chez eux au départ. Enfin, ouais. tout le temps, hein, on y est. Donc, on dépend d'autre chose. Mais en fait, on travaille pour soi. C'est complètement différent. On a une autre vision des choses. Et... voilà, on va de l'avant, il faut positiver, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? On va de l'avant ou on s'écroule? On peut pas s'écrouler, on n'a pas le droit, on n'a pas le choix, il faut avancer et puis voilà, c'est tout, hein. C'est pas toujours évident, ça demande énormément de courage et de, comment dire, aussi, c'est bien aussi d'être bien entouré, hein. Également, j'ai un mari qui est indépendant, il est agriculteur, alors vous imaginez un petit peu la vie, trépidante que nous avons du 7 jours sur 7 souvent, mais voilà, c'est différent, la vie est totalement différente, on partage d'une autre manière avec voilà, on a plus de liberté, on est contraint, mais on a aussi plus de liberté.
Je vois Céline qui essaie.
Ah oui, mais je me reconnais complètement. Ce que j'allais dire, le mot qui me vient, c'est différent. Plus de liberté, je sais pas, enfin c'est une liberté différente. Voilà, et souvent qui est mal comprise par l'entourage, notamment chez des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Moi, ça a été plus les difficultés que j'ai rencontrées au niveau de ma famille, qui sont pour beaucoup salariés, et on a une image justement de liberté qui n'est pas réelle, notamment dans les horaires. Par exemple, s'il y a quelque chose pour dépanner, bah tiens, viens en plein milieu de journée, toi t'es libre, tu t'as pas d'horaire. Non, mais j'en ai plus. Toi, tu peux prendre des vacances quand tu veux, oui, mais concrètement, j'en prends pas. Parce que les gens, ils ont 5 semaines, ils sont de congé, ils sont payés. Nous, on pourrait en avoir 50, mais chaque semaine pour laquelle on ne travaille pas, on ne rentre pas d'argent non plus. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils nous disent « Ah, mais tu gagnes plein de sous. On m'en prend aussi beaucoup. Et il faut que je paye avec ça, il faut que je paye mes congés, il faut que je paye si je suis malade, il faut que je paye... »
Alors, après la femme au foyer, il y a la femme chef d'entreprise. On en revient au même point, c'est-à-dire, tu es chef d'entreprise, tu peux gérer ton temps, tu viens t'occuper des enfants
qui sont malades.
Est-ce qu'on demanderait ça à un homme chef d'entreprise?
Oui.
J'espère qu'on le demanderait à un homme chef d'entreprise, mais je sais pas, je pose la question.
Alors là, je peux témoigner aussi, moi, au niveau personnel, puisque donc mon mari a 2 enfants d'une union précédente. Il est entrepreneur. Et il a eu le même problématique avec son ex-femme.
D'accord.
Donc il y avait un enfant à aller chercher ou quoi que ce soit. C'était tiens, toi tu y vas. Moi j'ai des horaires de bureau.
Là il dit attendez, ma femme est chef d'entreprise, je vais lui demander qu'elle y aille. Non, non, je rigole. On va donner les chiffres de l'artisanat en Lozère. Une donnée, le temps que Sylvie les recherche. La moitié des dirigeantes de l'artisanat pilotent une entreprise de coiffure, de soins de beauté ou de floristerie. Alors, je suis désolé, mais on reste encore dans les stéréotypes. Sylvie, Charlotte, Céline, où se situe le problème pour en arriver là ? Dure question.
Je pense qu'il y a déjà une, aussi quelque part une affinité et des...
Est-ce qu'on ne la force pas cette affinité ? Est-ce qu'on n'explique pas à quelqu'un qui veut être maçon de lui dire non mais c'est trop dur physiquement pour toi, tu devrais plutôt aller là ?
Il y a une partie de ça qui est très 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 présente. Hein. Effectivement, on nous éduque comme ça. Je crois que même la science, en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus au niveau scientifique. Il est très très délicat de faire la différence entre l'inné et l'acquis, dans la mesure où le formatage a lieu depuis tout petit avec les poupées et les voitures. Et je pense que justement ça s'ouvre, mais il reste quand même une question. Je pense qu'un homme est quand même pas égal à une femme. Un homme n'est pas identique à une femme.
Oui, mais justement, c'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est qu'effectivement, ouais. Il faudrait avoir les mêmes opportunités, et on le voit. Alors,
c'est pour ça.
Je veux pas taper sur qui que ce soit, mais en termes d'orientation, en effet, il y a souvent, on dit aux filles, bon, ben, tu sais pas quoi faire, ben, justement, va faire coiffure. La réunion où j'ai assisté là dans les rôles, les trois quarts des femmes, elles voulaient faire donc prothésiste ongulaire, coiffeuse ou cuisine. En fait, on était vraiment sur des choses très des métiers qu'on peut considérer comme féminins. Et il y en avait qui sortaient un peu du lot, justement, une céramiste, c'est celle qui avait eu cette mauvaise expérience dans un atelier partagé, comme par hasard. Donc, il y a en fait plein de petits obstacles tout au long de la vie, en fait. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai noté quelque chose que vous avez dit, Sylvie. Vous avez parlé de chance quand vous êtes rentrée dans l'école Séférandi, c'est ça ? Vous avez parlé de chance, alors qu'en fait, finalement, aujourd'hui, ça fait 30 ans que vous êtes chocolatière. C'était pas de la chance, c'était aussi du travail et sûrement aussi du talent. Enfin, voilà, encore aujourd'hui, malgré votre parcours, on est toujours on a tendance, nous les femmes, un petit peu à se dévaloriser, à se sous-estimer.
Ah, ça c'est clair. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une question de savoir-être aussi. Où on l'a bien vu, en fait, les femmes sont plutôt, même au niveau cérébral, en fait, il y a eu des études, hein, au niveau neuronal, où les femmes ont plus de capacités, par exemple, en communication, et les hommes ont plus de capacités de vue en 3D. Ça, c'est des choses, je pense, qui sont peut-être influencées de toute façon par ce formatage, puisque au niveau neuronal, notre cerveau se forme en fonction des expériences qu'on vit. Donc, fatalement, à un moment donné, ça va influencer le développement de notre cerveau, mais il y a quand même, on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes constitutions physiques, donc il est normal qu'on n'ait pas non plus les mêmes compétences de base complètement. C'est pour ça que je dis que l'homme n'est pas identique à la femme. Maintenant, je vois pas pourquoi, sur cette base-là, on mettrait des limites et on cloisonnerait des métiers spécialement d'hommes ou spécialement de femmes.
Sylvie, vous voulez intervenir ?
Je pense que la société, elle a fait beaucoup de progrès. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser. C'est difficile, hein. Moi, c'est mon quotidien depuis des années, des années. Je l'ai mis de côté, en fait, tout simplement. Je parlais de chance parce que je voulais rester, c'est bête à dire, humble. En fait, Ferrandi, j'ai réussi mon concours d'entrée. Tout simplement. Mais voilà.
Mais justement, souvent, les hommes, ils ont pas ils vont dire, j'ai travaillé, j'y suis arrivée, tout m'est dû, en fait, c'est mon mérite. Mmh. Et alors que nous, en effet, les femmes, on va être plus sur, j'ai eu de la chance ou une opportunité s'est présentée, comme si, on avait vu la lumière, on était rentré et on était devenu chef d'entreprise.
C'est pas évident. Moi, je viens de faire d'attaquer un projet, un nouvel atelier de fabrication. J'ai connu j'ai eu des échanges incroyables, mais avec un milieu d'hommes, c'était pas toujours évident. Avec d'autres, c'était impeccable. Et des fois, c'est pas évident. Je veux pas choquer, mais on est là pour parler de notre expérience personnelle. Eh ben, une femme qui sait ce qu'il veut, c'est une femme un peu chiante, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle est chiante, celle-là. un homme qui sait, qui est obstiné. C'est un homme qui sait ce qu'il veut.
Il est déterminé.
Ce que je veux dire. Il est déterminé.
Ouais, une
femme qui va dire, voilà, je veux pas ça comme ça, s'il vous plaît, faites-moi ça comme ça. Vraiment, j'insiste. Voilà. Et dans mon expérience personnelle, j'essaye toujours de ménager, la chèvre et le chou, hein. Le praliné, la ganache. Mais parce que on doit être douce, mais en étant forte, pas trop montrer son côté masculin parce que ça peut choquer, ça peut on est toujours dans ce côté. C'est un combat. Moi je dis c'est un combat. Voilà. Et puis ça passe dans le quotidien. Et puis on fait comme ça. Alors moi j'ai que des filles avec moi. Mon équipe c'est que des filles. Voilà, j'ai mon mari qui vient nous aider un peu. J'ai beaucoup de chance parce qu'il me soutient beaucoup. Et si j'ai quelque chose à réparer, il est là. Voilà, quoi. J'ai beaucoup de chance. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Il va être long.
Je pense que tout est possible. Maintenant, c'est vrai que ça nous demande plus d'énergie, plus de ténacité et, comme je disais tout à l'heure, un sacré tempérament.
Voilà, oui.
En Lozère, ça donne quoi un peu les chiffres de l'artisanat et des femmes, Sylvie ?
Alors, j'ai donc la Chambre des métiers qui m'a communiqué quelques chiffres. Donc, en Lozère, vous avez 711 femmes chefs d'entreprise pour 2120 hommes, soit 25%. Sur 62 conjoints collaborateurs, il y a 83% de femmes. Et au CFA, sur 346 apprenants, au CFA demande, il y a 53 femmes. Pas forcément dans les métiers que vous disiez tout à l'heure, fleuriste, coiffeur. Donc il y en a 4 en carrosserie, 4 en mécanique, 4 en menuiserie, 4 en charpente, 4 en électricité, 4 en boucherie. Bon, ça c'est les métiers masculins. Après c'est vrai que les autres le sont aussi dans les métiers que vous avez cités tout à l'heure.
Voilà, alors 50 à peu près sur 380, ça reste quand même une proportion très faible d'apprentis. 25% de femmes chefs d'entreprise, on est un peu en dessous des chiffres nationaux qui tournent plus vers les 30%. Mais après on retrouve les mêmes données quasiment au niveau lozérien que national, Charlotte.
Oui, tout à fait, c'est assez équivalent. Après c'est vrai que pour le CFA, je suis quand même étonnée effectivement qu'il y ait si peu de jeunes femmes en fait. Ouais. C'est une surprise que je découvre.
Oui, ça.
Encore du chemin à faire, mais il y a tellement d'énergie, tellement d'efforts à déployer, puis une mentalité, et puis un accompagnement. C'est difficile à expliquer. Personnellement, j'ai été au CFA demande. En tant qu'apprenti, j'ai été aussi au CFA dans le Var, qui s'appelle le CFA du Bossé. Je suis la seule qui s'est installée à ma connaissance en tant que chef d'entreprise dans toute la diversité que j'ai suivie, Paris, donc à côté de Toulon. Je suis la seule à m'être installée. C'est incroyable. Dans le métier de bouche, restaurant ou chocolaterie ou même pâtisserie, je suis la seule à m'être lancée. Alors bon, je revois mes professeurs de temps en temps, parce que j'ai gardé beaucoup de contacts. Et chaque fois je demande, je fais un sondage. Alors combien vous avez de... ma curiosité personnelle, vous avez beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles dans ces cursus-là. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que il y a ce côté de femme. La femme, elle va porter l'enfant, elle va s'occuper de la maison, et puis peut-être qu'elle perd aussi un peu de confiance en elle. Elle va rester, même si elle a des ambitions, j'ai cette impression-là. Ça sera peut-être les hommes qui auront le dessus au niveau de la situation matrimoniale. Mais je suis la seule à m'être installée. C'est pour ça que on essaye d'analyser. Je me dis, j'aimerais savoir aussi. Je suis curieuse de cette situation-là parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Se situe la femme dans les entreprises et dans notre société. Voilà.
Si je peux me permettre, je pense qu'il y a en fait deux problèmes différents, qui reviennent de la même racine. Mais il y a le problème des embûches qui sont réelles, les problèmes de financement en premier, les collègues qui empêchent de grimper en interne dans les sociétés. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, je pense aussi qu'il y a une éducation de la femme qui ne se voit pas, en fait, parce que vous disiez, si elles ont des ambitions, elles n'osent pas, mais il y a aussi beaucoup qui n'ont pas les ambitions, parce qu'en fait, dans leur tête, une femme
on leur a pas donné,
n'est pas un entrepreneur. Mmh. On nous éduque dans quand tu seras grande, ton rêve c'est d'avoir un mari, des enfants, un chien, une maison. Et d'apprendre à faire à manger pour ton mari. Moi j'ai que 45 ans, on en était encore là déjà à mon époque. Nous on essaye d'éduquer nos enfants dans une perspective différente où on leur ouvre les possibilités en leur apprenant à suivre leur cœur et à dire rien n'est impossible, vraiment bats-toi pour tes rêves. Que on a un garçon et une fille, ce sera pareil pour les deux. On les éduque sans différence à ce niveau-là. Mais les femmes, moi ce que je trouve le plus grave, c'est qu'elles ne se projettent même pas. Ça ne devient même pas un rêve en fait. Et je pense qu'il est surtout là la racine du problème, c'est de leur réapprendre que
c'est une question de culture.
Qu'elles font ce qu'elles veulent et que être femme au foyer ou être femme tout court, être femme, c'est pas être la femme d'eux.
Ou avoir des postes qui ne sont pas en adéquation avec voilà. Ceux dont on rêve aussi.
Qu'est-ce que tu as envie de faire? Que tu sois un homme ou une femme et qu'elles s'autorisent elles-mêmes. Je pense qu'elles sont leur premier frein. Et quand elles le dépassent, effectivement, elles ont d'autres freins.
Si on part du chef d'entreprise, du statut du chef d'entreprise et qu'on s'intéresse au salariat, donc un tiers des salariés de l'artisanat sont des femmes. Toutefois, ils n'exercent pas les mêmes métiers, les mêmes fonctions évidemment. Et donc sur les chiffres que j'ai trouvé, les informations, les hommes occupent le plus souvent les postes de production, quand les femmes occupent majoritairement les fonctions transverses, c'est-à-dire secrétariat, vente ou comptabilité. Charlotte, finalement, on reste une nouvelle fois dans les stéréotypes que l'on retrouve dans d'autres domaines, dans les associations, le monde associatif, d'autres secteurs de travail, dans les études, tu feras plutôt de la santé, du social que des sciences. Finalement, on le retrouve aussi dans l'artisanat.
Oui, en fait, c'est un peu la transposition dans l'artisanat. Les femmes, comme on disait plus tôt, on les oriente plus vers le care, en fait, vers tout ce qui est le soin aux autres, le social. Et les garçons, on va les orienter effectivement plus vers du scientifique ou vers des métiers effectivement manuels. Voilà, par exemple, là, il y a 3 encadrants techniques à l'atelier des bricoleurs. Il y a une femme. Voilà, c'est plus comme ça qu'on divise. Et puis on le voit dès le plus jeune âge. C'est cliché, mais de dire voilà, un garçon va lui offrir le kit de bricolage, alors qu'une fille on va lui offrir la cuisine en fait, pour que voilà, elle se prépare à cuisiner, ou le poupon, voilà, pour tout ce qui est le soin aux autres.
On parle d'apprentissage. En préparant cette émission, je suis un peu tombé des nues concernant les organisations prestigieuses de formation métier d'art. Je me suis un peu aussi intéressé au métier d'art sur les Compagnons du Devoir. Alors j'ai appris que du haut de leurs 8 siècles d'existence, ils n'accueillent des femmes que depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire 2004. Aujourd'hui, elles représentent 10% des effectifs, et c'est qu'en 2004 que l'organisation décida par une assemblée générale d'ouvrir la porte aux femmes, qu'elles présentaient encore des résistances de certains de leurs membres masculins à l'ouverture sur l'autre sexe. Vous imaginez quand même 8 siècles d'existence, et il leur a fallu attendre que les années 2000 passent pour que les femmes puissent entrer. Enfin, Charlotte, j'ai complètement halluciné sur cette
donnée. Oui, non, mais c'est fou en fait, c'est incroyable.
Alors après, bon, il y avait eu en 78, il y a eu le compagnonnage égalitaire qui a promu la mixité dans l'idée d'être davantage en face avec l'évolution de la société. Il y a eu d'autres choses, mais sur les Compagnons du Devoir, voilà, c'est très tardif. Je sais pas, j'ai l'impression que l'artisanat d'art est plus paritaire, peut-être. Je sais pas si quelqu'un a des données, ou Céline, vous qui êtes un peu dans l'artisanat d'art, remarquez-vous aussi, chocolat, c'est de l'art.
Ça se féminise. Hein. J'ai envie de rebondir un petit peu sur. Je donne une anecdote, hein, puisque en fait mon parcours m'a permis d'avoir énormément d'anecdotes et d'histoires. J'étais chez un. Je citerai pas l'entreprise, une entreprise assez importante, et j'ai dit mais moi je rêverais d'aller. J'aurais rêvé d'aller dans cette entreprise, mais pourquoi il y a que des garçons et pourquoi ils acceptent pas? Mais parce que je sais plus comment il m'a dit ça. Le patron chez qui j'étais, il m'a dit non, tu peux pas y aller, sinon ça sera que des coques. C'est-à-dire voilà. Donc c'était pas possible d'y mettre une fille ou même deux ou trois, parce que ça allait se c'était pas possible quoi. C'est incroyable quand même. Hein. Alors que moi j'aurais rêvé d'aller travailler dans cette entreprise. Oh, ben, on m'a refusé aussi l'entrée dans un restaurant parisien. On m'avait dirigé vers un grand restaurant. J'arrive à l'accueil et on m'a dit vous êtes une femme. Ah ben oui, à première vue. Voilà. Alors on m'a dit ça sera pas possible, mademoiselle. Et je suis repartie avec ma mallette à couteau. Voilà, mais ça est devenu des anecdotes dans ma tête, mais qui sont toujours là. Et d'un coup, ben, on les ressort, on se dit c'est hallucinant. 25 ans après, c'est pas possible, quoi. Voilà.
Alors, pour revenir sur les métiers d'art, il y en a qui sont peu paritaires, ferronnier d'art ou tourneur de bois, par exemple. Et le travail du cuir et du textile est maintenant largement mixte. Voilà, c'est pour vous, Céline.
Alors oui, effectivement. Alors moi, je débute. Hein, je suis encore en cours de formation. En formation, effectivement, il y a quand même beaucoup de femmes. Jusqu'à présent, on a toujours été majoritaire dans les sessions que j'ai suivies. On reste quand même sur une matière qui est à la jonction de la confection et de la couture, et donc un milieu féminin. Mixé avec un métier de sellier plutôt harnacheur qui est plutôt masculin. Donc en fait, comme on est à la jonction des genres, moi je suis sur une profession qui finalement est presque naturellement mixte.
Oui.
Donc là-dessus, je peux moins témoigner de ce côté-là.
Non, mais c'est intéressant. Juste, on va pas tarder à changer de plateau. Le 23 mai prochain, la Chambre de métiers de l'artisanat au niveau national remet les trophées Madame Artisanat, qui ont pour objectif de valoriser la place des femmes chefs d'entreprise artisanale, des collaboratrices et des apprentis pour leur contribution à l'économie de proximité, promouvoir l'entrepreneuriat et susciter des vocations. Donc voilà, je voulais le citer parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Avant de laisser vos places, peut-être un mot sur vos créations, Céline. Qu'est-ce que vous proposez et où est-ce qu'on peut les retrouver?
Alors pour l'instant, on les retrouve pas encore. On pourra les retrouver, en fait. Pour l'instant, je communique plutôt sur les réseaux sociaux.
Oui, parce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. On peut les retrouver.
Voilà, sur Facebook et Instagram, sous la marque Canopus Création, K-A-N-O-P-U-S. Et ça va être, en fait, j'aime bien aussi revisiter un petit peu le cuir et en mettre là où on ne l'attend pas forcément. Donc en ce moment, je crée des tableaux en cuir. Voilà, à la place des photos habituelles ou de la peinture, moi j'intègre du cuir. Ça peut être traditionnellement des barrettes à cheveux, des sacs forcément, voilà, maroquinerie, petite maroquinerie, tout ce qui est porte-carte, portefeuille. Et j'ai aussi un projet de développer une lampe fleur qui va mixer justement donc tout l'intérêt pour moi d'intégrer la tisoire, de pouvoir collaborer en fait avec des gens qui travaillent le bois pour pouvoir faire toutes les parties de support de la lampe. Voilà, avec un système de pétales en cuir repoussé, donc travaillé en relief et un globe en lin.
Alors justement, vous avez testé ce lieu, la tisoire, vous êtes la testeuse principale, voilà, la bêta testeuse, vous en pensez quoi?
Alors, moi j'adore le concept. Moi j'ai contacté Lozère Développement à l'origine parce que je cherchais tout simplement un local où m'installer avec toutes les problématiques dont on a pu parler avec les accès aux lieux et les budgets qui vont avec les problèmes de financement. Et Vincent Gatin, qui porte actuellement le projet pour Lozère Développement, m'a décrit le principe de ce lieu qui me fascine entre la mutualisation, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est le côté coopératif, où vraiment on va pouvoir faire des synergies et du transversal en fait entre les matières, entre les formations, même sur une même matière différente, avec vraiment que chacun puisse enrichir l'autre, qu'il puisse y avoir des projets communs qui émergent. Donc ça, pour l'instant, je suis toute seule, donc je collabore avec moi-même. C'est un peu certes limité, mais j'espère quand même pouvoir participer un peu plus activement à quelque chose de synergique dans un futur proche. Sinon, le lieu en lui-même est très agréable. Je veux dire, on a de la place, c'est lumineux. C'est facile d'accès quand même relativement, c'est assez central sur le département. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Financièrement, c'est intéressant au niveau de la mutualisation des équipements. Bon, moins pour les matières un peu périphériques comme le cuir, on aura moins d'équipements spécifiques. Mais il y a quand même voilà, la mutualisation des coûts de gestion, d'entretien du local. Voilà, il y a tout un aspect intéressant financièrement. Il va y avoir un aspect enseignement qui peut m'intéresser aussi à terme, pas maintenant, pour l'instant c'est moi l'élève, mais à terme pouvoir transmettre mon savoir et faire perdurer des métiers à l'ancienne, parce que moi je travaille vraiment sur une technique qui s'appelle le repoussage, qui est quelque chose qu'on repère depuis des siècles et des siècles, mais qui se perd. Donc c'est important de faire perdurer ces savoirs-là. Donc la dimension de transmission de la tisoire est quelque chose de très très important, que ce soit auprès du grand public ou en professionnalisation. Donc le projet pour quelqu'un comme moi est vraiment multidimensionnel et intéressant sur tous les points de vue.
Très bien, merci beaucoup. On retrouve où les chocolats pour les gens qui ne vous connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais Sylvie.
On est à Langogne, sur le centre-ville, donc c'est dans la boutique Secret des Cacaos, juste sur la place de la Halle. Et puis j'ai eu l'immense possibilité, capacité de pouvoir ouvrir un atelier de fabrication avec un magasin au bord de la RN 88, aux abords de Châteauneuf-de-Randon, plutôt du côté de Langogne. Voilà.
D'accord, merci à vous deux d'être venus.
Merci beaucoup à vous.
Là, merci à tous.
Et on accueille sur cette dernière partie d'émission Emeline Pagès, conseillère emploi insertion au CIDFF 48, et Susanna Joff, participante à cette journée. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors avant de vous donner la parole, Charlotte, Simon, on a pu voir au gré des témoignages et des chiffres que nous avons donnés, des freins à la parité. Quelle réponse finalement on peut apporter à ces questions-là, ces problèmes-là ?
Alors là, il y a un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui couvre la période 2023-2027 et qui a un axe très fort, voilà, qui a vraiment l'égalité professionnelle et économique en son cœur, avec vraiment trois objectifs, on va dire, comme on en parlait plus tôt, hein, garantir un meilleur accès au financement pour les entrepreneurs. Et pour ça, c'est de sensibiliser les fonds d'investissement et les banques, en fait, hein, qui attribuent les financements, et notamment avec ce qu'on appelle l'EGA conditionnalité, c'est-à-dire de conditionner l'accès au marché public au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la mise en place d'actions qui la soutiennent. Voilà, l'autre objectif, c'est de soutenir les femmes qui entreprennent, et là c'est par le développement de programmes de mentorat, voilà, pour avoir un soutien et moins d'isolement, et d'un baromètre aussi annuel, voilà, pour suivre l'entrepreneuriat féminin tous les ans. Et enfin, on en parlait aussi plus tôt, tout ce qui est les inégalités liées à la parentalité, en fait, hein, à la garde d'enfants. Donc c'est de les réduire en améliorant les congés maternité et paternité.
Voilà, beaucoup de soutien. Emeline, outre le travail sur bois, on t'a vu travailler les lampes avec quelques objets qui sont d'ailleurs tombés. Rappelle-nous sur quel champ tu interviens au CIDFF ?
Oui, donc moi j'interviens sur le champ de l'insertion, de l'emploi. J'interviens en tant que conseillère en insertion socio-professionnelle. Voilà.
Au niveau de l'accompagnement sur l'emploi, il y a des spécificités au CIDFF ?
Alors, en termes de spécificité, on va dire que j'accompagne principalement des femmes, mais parfois quelques hommes, bien sûr. L'idée, effectivement, c'est de travailler la question du projet professionnel de ces personnes. Et pour les accompagner au mieux, ça passe par le biais de ce qu'on appelle la levée des freins. Donc, ça peut être la question de la garde d'enfants, la question de concilier vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi, ça peut être de l'accompagnement vers une formation, vers de la création d'entreprise, et puis bien sûr du travail de réseau, de partenariat avec les différents acteurs du champ de l'insertion, de l'emploi bien sûr. On travaille avec les collègues de Pôle emploi, des missions locales, tous les intervenants sur le terrain et sur le secteur de la Lozère. Voilà.
Qui porte ces freins plutôt alors pour la garde d'enfants, tout ça, sont plutôt des femmes, des hommes qui viennent vous voir ?
Alors, actuellement, en termes de chiffres et de données, bien sûr, on est plutôt sur une population féminine, en tous les cas sur la question de la garde d'enfants. Pour autant, à l'heure actuelle, on commence à avoir des demandes au niveau des hommes, et c'est très bien. En tous les cas, ce qu'on remarque, c'est que à l'heure actuelle, il y a une réelle volonté justement d'avoir ces notions de concilier vie pro et vie perso, que ce soit de la part des entreprises qui sont quand même de plus en plus dans la recherche et l'amélioration des conditions de travail de leurs salariés, et de la part des salariés qui cherchent bien sûr à pouvoir avoir un équilibre dans leur vie autant personnelle que professionnelle. Voilà.
Susanna, vous êtes inscrite à cette journée, pourquoi ?
Je suis invitée ici pour connaître un petit peu la matière des artisans. Et je voudrais changer mon travail. Je suis ingénieure et je voudrais changer tout. Et c'est elle qui m'accompagne à trouver qu'est-ce que je peux faire ici.
Voilà, vous venez du Chili, vous avez toujours une activité là-bas?
Oui, je travaillais comme ingénieur là-bas et je suis arrivée ici il y a 2 ans. Et toujours, je suis accompagnée pour Emeline, pour toutes les filles qui travaillent là-bas.
Voilà, vous intéressez à l'ébénisterie, au travail sur bois, c'est ça? Vous aimeriez en faire votre métier?
Et oui, peut-être je vais étudier l'ébénisterie, mais le plus que j'aime, c'est de faire des reliquins de meubles.
D'accord. C'est des demandes spécifiques qu'on vous donne comme ça, Emeline, ou c'est un travail de réflexion ensemble avec la personne qui vient vous voir?
En fait, je dirais que c'est pas une demande spécifique, mais c'est plutôt une c'est la personne qui arrive avec ses spécificités et ses demandes, en fait. Donc l'idée, effectivement, c'est que je les aide au mieux à travailler leur projet. Et puis bien sûr, on est là en fait vraiment à faire du sur-mesure et donc à faire vraiment avec les besoins, les demandes et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, les accompagner au mieux. Voilà.
Vous avez fait ou vous allez faire un stage d'ébénisterie avec les entreprises S'engage, c'est ça?
Non, pas du tout. J'ai essayé de faire un stage, mais j'ai pas trouvé de la ébénisterie.
D'accord, donc là c'est le moyen d'essayer.
Oui.
Et pour l'instant ça vous plaît?
Ah oui, beaucoup. Et même j'ai écouté le projet d'ici et ça m'intéresse beaucoup.
Vous suivez combien de personnes, Emeline, vous au sein de votre service entreprise?
Alors, en termes de files actives sur le secteur emploi, à peu près, on suit 130 personnes à l'année sur le service emploi, hommes et femmes confondus, avec bien sûr, une population de femmes un peu plus importante. Dans tout type d'action. Donc c'est vrai que là on parlait des entreprises S'engagent. Alors c'est vrai que il n'y avait pas pu avoir un stage au niveau de l'ébénisterie, mais pour autant il y avait quand même la possibilité pour Susanna de faire un stage dans une entreprise qui travaillait le bois. Donc l'idée effectivement c'est que on est là pour les accompagner à tester, essayer. Voir si ça fonctionne ou pas, et puis si ça fonctionne tant mieux, et si ça fonctionne pas, tant pis, on est là pour proposer encore d'autres choses, et puis c'est la richesse de travailler dans l'humain et d'avoir des journées comme aujourd'hui. Voilà.
Susanna, après pour vous l'objectif c'est quoi? C'est de vous mettre à votre compte, d'être chef d'entreprise, de travailler dans une entreprise où on verra ce qu'il advient?
Je voudrais créer mon propre atelier. Peut-être, pourquoi pas, des journées de travail aussi.
Charlotte, on vient de le voir, il y a évidemment un intérêt d'être accompagné par une ou plusieurs structures, notamment pour se former dans différents domaines, pour être chef d'entreprise, qui est un métier à part entière.
Oui, effectivement, je reprendrai les termes d'une menuisière ébéniste, justement, qui est présidente de Bâtir au Féminin, qui s'appelle Florence Bonneau, et qui disait qu'au-delà d'être artisane, finalement, elles étaient vraiment chefs d'entreprise, et que ça, c'était un vrai métier à part entière, qui nécessitait un accompagnement, que ce soit sur la communication, sur la comptabilité, sur les ressources humaines, éventuellement, si Susanna veut un jour embaucher. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, que ce soit par le CIDFF, par la CMA, et aussi, et c'est ce qui est ressorti pas mal aujourd'hui, il y a un certain isolement en étant artisane, en travaillant seule. Et donc là, c'est l'importance des réseaux, notamment féminins. Et par exemple, en Lozère, on a les femmes de territoire Lozère, où il y a une cotisation annuelle, mais ce qui permet d'avoir un lien avec d'autres artisanes, de participer à des ateliers, de partager un peu des moments conviviaux, comme on l'a fait à midi sur la pause déjeuner, mais aussi des ateliers un peu de partage des compétences de chacune.
Donc là, ça y est, premier atelier pour Susanna avec le bois. Comment va se poursuivre l'accompagnement pour réussir à aider Susanna à aller au bout de son envie?
Alors l'accompagnement, l'idée effectivement aujourd'hui avec, comme l'a cité Charlotte Simon sur la CMA, tous les partenaires qui ont pu être présents aussi aujourd'hui, des femmes artisanes, des femmes chefs d'entreprise. Donc vraiment l'idée aussi c'était de créer du lien, de rencontrer des personnes, d'avoir un petit peu des contacts. Donc dans un premier temps ça va être faire du lien, reprendre, faire le point, voir si effectivement les objectifs de la journée ont été atteints. Et puis voir s'il faut s'inscrire vers une formation, vers quel type de formation, voilà, si c'est aussi sur de la création d'entreprise, se rapprocher, ben voilà, la CMA est tout à fait au fait de tout ça. Et puis ben nous aussi, au niveau du CIDFF, on a d'ailleurs des conventions de signer, hein, notamment avec la CMA. On a la chance de pouvoir travailler avec la déléguée aux droits des femmes, donc Charlotte Simon, par rapport à bon nombre de projets. Donc voilà, l'idée c'est d'être sur le coup, si je peux parler comme ça, mais en tous les cas, voilà, c'est un travail où il faut être flexible, adaptable, et puis surtout être au plus près des besoins et des demandes des personnes qu'on accompagne.
Voilà, et Susanna, si après vous cherchez une entreprise pour aller avec votre stage ou quoi, vous nous le dites et on passerait une demande à l'antenne.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les deux pour d'être venues clôturer cette émission. Charlotte Simon, merci beaucoup.
Merci.
Vous voulez le mot de conclusion ?
Non, je vous laisse.
Eh bien, écoutez, on va conclure sur cette belle journée qui continue. On va attendre les productions de lampes qui arrivent, Susanna, que vous pourrez ramener chez vous et donner envie à tout le monde de faire appel à vos dons pour créer des lampes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission thématique en espérant que celle-ci vous a plu. Elle sera rediffusée le mercredi à 19h et donc le lundi d'après à 12h30. Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.